Salut tout le monde et bienvenue à une toute première édition de la deuxième saison, on va l'appeler comme ça, de Sortie de zone. Ici Jérémy Filosa et bien sûr, pour m'accompagner aujourd'hui, le descripteur des matchs du Canadien sur nos ondes, Martin McGuire. Salut Martin!
Allô Jérémy!
Et on retrouve aussi nos amis de la presse, Alexandre Pratt et Guillaume Lefrançois. Salut les gars!
Salut!
Salut Jérémy!
Salut Guillaume qui est à Toronto justement pour le match de demain soir entre le Canadien et les Pingouins de Pittsburgh. Les gars, on va se lancer directement dans les sujets si vous le voulez bien. Votre appréciation, je voudrais commencer avec ça, les trois. Votre appréciation de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant sur 4 jours de match préparatoire de la Ligue nationale, autant du côté de Toronto qu'Edmonton. Bien sûr, la sécurité des joueurs jusqu'à maintenant, on peut se compter chanceux. Pas de cas positifs, ni dans une bulle, ni dans l'autre. L'accès aux médias, c'est sûr, c'est plus compliqué, mais bon, on essaie de faire comme on peut. Et visuellement, et les effets spéciaux aussi, là, je vous dirais. Martin, un premier commentaire là-dessus.
Ben moi, globalement, je pense que la Ligue nationale a assez bien livré la marchandise. C'était pas parfait. On nous avait d'ailleurs averti, Gary Bettman avait pris le soin de nous dire que ce serait pas parfait et que ce serait comme la marche de l'empereur. Des fois, ce serait un petit peu difficile. Mais somme toute, ils ont assez bien livré techniquement. Visuellement, ça se présentait bien. On s'est beaucoup inspiré des jeux vidéo, puis ça, c'est réussi. Je pense qu'ils ont regardé un peu ce que faisait le basketball. Et dans la mesure où une patinoire, c'est plus grand qu'un court de basketball, c'est assez bien fait de ce côté-là. Pour ce qui est de la tenue générale des équipes, j'ai pas eu de surprise ni du côté négatif ni de grande surprise du côté positif. Ça reste encore à développer et ça reste aussi qu'on est en plein milieu de l'été où normalement à ce temps-là de l'année, ces gars-là sont en vacances. Alors je pense qu'il fallait s'attendre un peu au genre essai-erreur qu'on a vu sur la glace depuis le début des matchs préparatoires.
Alexandre, écoute, déjà, quand on avait choisi deux villes canadiennes, ça augurait quand même mieux que ce qu'on a vu au sud de la frontière. Ton appréciation de ce que tu as vu jusqu'à maintenant?
Ben moi, je trouve que c'est très positif pour la Ligue nationale de hockey. À date, c'est un retour qui est réussi. En fait, c'est même au-delà des attentes. Il n'y a eu aucun cas positif depuis une semaine. Il y en a eu beaucoup au début des entraînements, quand même plus d'une cinquantaine. Mais là, la situation est résorbée. Puis on n'a pas le choix de comparer avec les autres ligues. Le baseball majeur, ça va très mal présentement.
Ouais.
Aujourd'hui, il y a 5 clubs qui sont à l'arrêt. On ne sait pas quand la saison va reprendre pour les Marlins, pour les Phillies. Alors, quand on se compare, on se console. J'ai été quand même impressionné par le rendu aussi télévisuel. L'aspect jeu vidéo est quand même intéressant. Je ne suis pas sûr de la caméra là, qui bouge au centre beaucoup. Ça donne mal au cœur par moment. Mais honnêtement... Moi, c'est vraiment au-delà de mes attentes. Puis, comme partisan de hockey, ça répond amplement. C'est vraiment supérieur à tout ce qu'on pouvait s'attendre.
Oui, tu as raison de le mentionner. Guillaume, toi, tu es à Toronto. Es-tu dans la bulle ou est-ce que tu travailles de l'extérieur? Comment ça se passe là-bas?
Je travaille de l'extérieur. Les journalistes indépendants ne sont pas admis dans la bulle, donc on n'a aucun contact avec les joueurs ou rien. Ce qui veut dire que les entraînements, on n'y a pas accès, mais les matchs, j'ai pu les voir. Donc, j'ai vu le match préparatoire des Pingouins. J'ai vu celui du Canadien. Je dirais que, ben, premièrement, comme Alexandre, je suis assez d'accord avec le fait que du point de vue sanitaire, en tout cas, c'est un très grand succès. Puis ça, moi aussi, ça dépasse mes attentes. Je ne pensais pas que la bulle pouvait tenir le coup aussi bien qu'elle le fait jusqu'ici. Donc là-dessus, oui. Pour le rendu télévisuel, ben là, c'est plus dur pour moi de me prononcer vu que j'ai vu les matchs en personne. Mais en personne, c'est sûr que il y a des améliorations à faire, ça, il n'y a aucun doute, parce que vraiment, pendant les matchs préparatoires, on voyait que c'était pas à point. Pour ce qui est de, par exemple, quand il y avait des buts, il y avait un délai avant que les sirènes de but partent. Donc, tu sais, ça faisait vraiment une très, très drôle d'ambiance là, dans l'aréna. C'était loin d'être parfait. Puis j'ajouterais aussi que la qualité du hockey, du moins pour ces deux matchs-là, là, pour le match des Pingouins et pour le match du Canadien, on était très loin du niveau de hockey des séries. Faut garder en tête qu'on part de très, très loin. Je veux dire, là, ce qu'on a vu là, c'est un premier match préparatoire. Et puis, tu sais, penser à quoi ça ressemble un premier match préparatoire au mois de septembre, c'est jamais très beau. Puis là, ben, je pense que les circonstances sont encore pires parce que là, ça fait 4 mois que personne n'a joué. Les gars n'ont pas pu s'entraîner pendant longtemps. Donc, j'ai hâte de voir combien de temps ça va prendre avant que le hockey revienne à un niveau correct, c'est ce qui me laisse perplexe pour le moment.
Écoute, Jonathan Drouin qui disait cette semaine que l'ambiance, c'était pire que dans le temps où il jouait à Tombe 2B ou quelque chose comme ça. Ben, écoute, dans notre cas, avec le bruit de fond ajouté, on a l'impression qu'il y a quand même un peu d'ambiance, mais je présume que dans l'édifice, ça doit être mort, pas à peu près. Martin, à quel point on peut justement regarder la performance du Canadien contre les Leafs et se baser là-dessus. Il y en a plusieurs qui ont dit on a retrouvé le club qu'on avait laissé il y a 4 mois. Es-tu d'accord là-dessus ou est-ce que vraiment il faut absolument donner la chance aux coureurs?
Ben, moi, j'ai l'impression que le Canadien est capable de mieux que ce qu'on a vu contre les Maple Leafs. Je pense que le phénomène d'une équipe qui n'avait pas joué depuis 4 mois, c'est sûr que les gens vont dire « mais les Maple Leafs aussi, c'est vrai ». Mais c'est parce que le phénomène d'une équipe qui n'a pas joué depuis 4 mois et qui n'a pas énormément de profondeur comparativement à la profondeur des Leafs. On peut s'y fier par rapport à ce que ça va être entre l'écart des employés de soutien des Penguins de Pittsburgh versus ceux du Canadien. Ça nous a sauté aux yeux dans le match contre les Maple Leafs de Toronto. Il y avait même une couple de gars clés du Canadien là, qui ont eu un peu de mal à prendre le tempo. Là où il faut aussi prendre des notes très importantes, c'est que l'écart qui existe entre les Pingouins et le Canadien est au niveau du talent et au niveau de l'expérience. Le talent et l'expérience sont les deux choses les plus importantes pour moi en série si tu veux avoir du succès. Tu sais, l'expérience, ça peut être relatif quand tu as beaucoup, beaucoup de talent, mais habituellement, les équipes jeunes avec beaucoup de talent déçoivent en série. Tu sais, ils ramassent un adversaire moins bon qu'eux, ils se font sortir plus rapidement qu'on pensait. Moi, je pense qu'il y a une certaine réalité qu'on doit prendre compte quand on a vu la performance de mardi versus ce qui s'en vient. Mais on sait jamais, l'émotion, ça peut faire bien des choses.
Alex, qu'est-ce que tu en as pensé?
Ben, moi, j'ai trouvé qu'à 5 contre 5, c'était quand même pas si mal. C'était pas optimal, mais c'était pas si pire. Par contre, l'avantage numérique, c'était absolument terrible. Ça m'inquiète un petit peu parce que l'avantage numérique, ça fait partie des choses qu'une équipe peut planifier d'avance. Hein. C'est une des seules situations de jeu où tu as le contrôle de la rondelle la plupart du temps. Il y a peut-être un petit manque de préparation ici de l'équipe. Ça m'inquiète plus. À propos de l'expérience puis du talent, je suis d'accord avec Martin. Je rajouterais par contre une troisième valeur qui est la motivation. J'ai des doutes sur les motivations profondes de plusieurs joueurs d'être là. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui sont pas contents d'être là. Mais c'est clair, là, par exemple, les joueurs qui ont des jeunes enfants puis qui savent qu'ils vont peut-être être là pour 4, 5, 6, 7, 8 semaines, ça va jouer dans leur tête. Moi, je pense que les équipes qui ont, par exemple, moins de joueurs avec des enfants risquent d'avoir un certain avantage psychologique là-dessus. Là.
Ouais. Maintenant, Guillaume, je te poserai la question justement pour rebondir un peu sur ce qu'Alexandre dit. Peut-être pas au niveau des joueurs, mais au niveau organisationnel chez le Canadien de Montréal, on le dira pas publiquement, mais c'est sûr qu'on doit avoir eu des discussions à savoir comment on veut jouer ce tournoi-là. Est-ce qu'on veut vraiment mettre tous les œufs dans le bon panier pour essayer de gagner à tout prix, même si ça veut dire laisser des jeunes de côté ou quoi que ce soit, on y reviendra. Mais est-ce qu'à l'interne, selon toi, chez le Canadien, on s'est dit peut-être qu'on peut utiliser ce tournoi-là pour aller chercher de l'expérience? Peut-être qu'on ne battra pas les Pingouins et qu'à ce moment-là, ben, on aurait aussi une opportunité d'aller chercher le premier choix. Comment tu vois ça?
Ben, disons que quand je vois les décisions personnelles qu'on a prises, ça me laisse croire qu'on veut vraiment se donner toutes les chances de gagner, de gagner et qu'on vise pas le développement. Parce que là, attendez-moi, là, comprenez-moi bien, je crois pas vraiment qu'ils ont des chances de gagner. Mais si, comment je pourrais dire ça, si on avait voulu prioriser vraiment le développement, ben, je pense qu'on verrait Jake Evans à la place de Dale Weiss. On verrait peut-être même Ryan Poehling. Jordan Wheel est là. Jordan Wheel, je l'aime bien. C'est un joueur valeureux de quatrième trio, là, aucun doute. Mais je crois pas que ce soit un joueur d'avenir pour cette organisation-là. Même chose pour Dale Weiss, justement. Alors, à cause de ça, Puis ensuite de ça, ben, en défense, c'est bon, Xavier Ouellet qui a une place. Xavier Ouellet a rendu de bons services. Il y a de l'expérience, je peux comprendre. Mais tu as quand même Kyle Fleury, Noah Jolson, qui, eux, ont des chances également d'être des pièces importantes de cette équipe-là, puis qui auraient la chance de vivre une très, très bonne expérience pour eux. Alors, c'est clair qu'avec les choix qui ont été faits, du moins pour commencer la série, oui. C'est que je pense que Claude Julien veut d'abord se fier vers des joueurs qui ont du vécu, qui ont du métier, même si ces joueurs-là n'ont pas nécessairement un grand avenir à très, très long terme dans l'organisation. J'ai hâte de voir si ça va changer au fil de la série. Si le Canadien devait perdre le premier match ou les deux premiers matchs, là, à ce moment-là, est-ce qu'on va changer d'approche? J'ai hâte de voir. Je serais surpris, par contre, parce que j'ai comme l'impression que l'organisation a fait sa décision puis a décidé que ce ne serait pas un cap développement glorifié, là, ce tournoi-là.
Ben justement, Martin, je voudrais que tu rebondisses là-dessus,
ben
si
oui,
tu veux bien.
Je voulais me permettre là-dessus. Moi, j'ai avec Guillaume puis avec quelques collègues, j'ai assisté aux deux semaines de camp avant que les gars aillent s'enfermer dans la bulle à Toronto puis se préparent concrètement pour jouer contre Pittsburgh. Puis sur l'utilisation des jeunes ou des gars qui ont plus de métiers, moi, ce qui m'a déçu, là, c'est de voir qu'aucun jeune du Canadien, ceux qu'on a placés là, sur la liste des Black Aces, là, Hudon, Evans, Paling, même Kotkaniemi qui est dans la formation et qui est dans le top 12, là, ce qui me déçoit, c'est qu'il n'y ait aucun jeune qui ait pu vraiment challenger des vétérans. Des vétérans sur qui, de toute façon, le Canadien va probablement abandonner. Là, je parle de Dale Weiss, je parle même de Jordan Will quand son contrat va être fini. Je peux même inclure, sans manquer de respect à l'individu, là, je peux même inclure Xavier Ouellet, qui a fait un travail vraiment génial avec Laval auprès de Joël Bouchard comme leader. Là, moi, ce qui me déçoit, c'est qu'il n'y ait aucun jeune joueur, jeune repêché du club, de l'organisation du Canadien, qui a pu menacer, ne serait-ce qu'une minute, les joueurs que j'ai nommés.
En même temps, écoute, c'est vrai que ça fait tellement longtemps que ces gars-là n'ont pas joué non plus, mais en tout cas, c'est la réalité et pareil pour tout le monde. Alex, si tu veux rebondir là-dessus, mais aussi, je te poserais la question, selon toi, chez les partisans du Canadien de Montréal, qu'est-ce qu'on désire? C'est quoi le pourcentage de partisans qui, selon toi, veut voir cette équipe-là gagner à tout prix cette série? Et quels sont ceux qui disent, servons-nous de ce tournoi-là pour donner de l'expérience peut-être aux plus jeunes, quitte à perdre et peut-être avoir cette option pour Alexis Lafrenière?
Il faudrait vraiment s'attendre sur la définition d'un partisan. J'ai quand même beaucoup de difficultés avec la notion qu'un partisan puisse souhaiter la défaite d'une équipe. En fait, pour moi, c'est pas nécessairement un partisan, ou en tout cas, sinon, c'en est un occasionnel. Je pense que les partisans du Canadien souhaitent la victoire du Canadien, du moins dans mon entourage, là, ceux avec qui je partage ma vie souhaitent ardemment une victoire du Canadien. D'autant que les chances quand même de repêcher Lafrenière, oui, elles sont bonnes à 12%. Mais je fais juste rappeler que les négligés gagnent quand même souvent dans la Ligue nationale des séries. Puis j'ai fait une compilation là, depuis le lockout. Il y a eu 210 séries dans la Ligue nationale. Et les négligés en ont quand même gagné 91. C'est 43% des séries dans la Ligue nationale qui sont gagnées par des négligés. Je veux dire, si je suis partisan, je m'encourage quand même de ça. Là. On n'est pas à la NBA où les équipes négligées gagnent jamais. Donc, il faut que les partisans du Canadien, en fait, souhaitent la victoire du Canadien. Je peux pas concevoir de souhaiter la défaite du Canadien. Sinon, c'est le cynisme ultime du sport. Puis, ben moi, je suis pas nécessairement un partisan du Canadien. Je suis plus un partisan de hockey. Mais je trouve que, sinon, c'est faire preuve d'un cynisme absolu. Là.
Ben la raison pourquoi je posais aussi cette question-là tantôt pour ce qui est de l'organisation du Canadien, c'est que, bon, on s'entend, ça pourrait terminer en trois matchs. On ne le sait pas. Il n'y a pas de match non plus locaux au Centre Bell, donc il n'y a pas nécessairement d'argent supplémentaire à faire avec des billets vendus. Et je pense qu'on va tous s'entendre pour le dire. Si jamais le Canadien devait se retrouver avec Alexis Lafrenière, ça pourrait changer le visage du club pour les 10 prochaines années. Moi, j'en ai vu plusieurs commentaires sur les médias sociaux, des gens qui prient le petit Jésus pour que, par chance, le Canadien se retrouve avec ce premier choix-là. Là.
Mais les amateurs, puis je rejoins un peu Alexandre là-dessus, puis je ne sais pas ce que Guillaume en pense, mais les amateurs, Jérémy, ont le droit de penser comme ça. Puis les amateurs ont le droit, sur les médias sociaux, de dire si ça peut finir contre Pittsburgh, puis qu'on a une chance de gagner la loterie, Lafrenière. Mais moi, j'ai toujours comparé ça au combat de boxe. Tu sais, tu peux pas espérer, tu peux pas entendre Claude Julien ou Marc Bergevin rentrer dans le vestiaire demain soir là, avant d'embarquer sur la glace contre Pittsburgh, puis dire, savez-vous quoi, les gars, c'est bien cute là, qu'on soit ici, là, mais nous autres, c'est Lafrenière qu'on veut.
Ah ouais, ben non, ça se fait pas.
Ça, c'est l'équivalent de dire à un boxeur, écoute, va dans le ring, fais-nous 3 belles rounds là, pour la télévision, puis après ça, couche-toi. Alors, tu sais, je veux dire, il y a des réalités, puis je pense qu'Alexandre l'a bien illustré. Tu fais pas du sport de haut niveau pour perdre, puis les gens doivent comprendre que chez Weber, Philippe Dano, puis Brendan Gallagher, là, Alexis Lafrenière, ils en ont rien à cirer, parce que pour eux, il est pas dans le vestiaire, il porte pas de chandail, il peut pas les aider sur le jeu de puissance. Alors, tu sais, on est dans deux réalités totalement différentes.
Ben, t'as raison, non, mais...
Puis en plus,
ils s'en ficheront pas dans 3 mois s'il est là.
quand tu vas avoir l'âge d'aider cette équipe-là, ben ces joueurs-là seront plus loin dans leur carrière ou seront peut-être même plus avec l'organisation c'est pour sûr. Certains. Donc, c'est sûr que ce concept-là de Lafrenière, c'est très loin, c'est très vague pour les joueurs de toute façon. Par contre, là où je comprends un peu le sentiment des partisans, de ceux qui aimeraient que le Canadien perde pour Lafrenière, c'est qu'aux yeux de plusieurs partisans, cette Coupe cette année-là n'aura peut-être pas la même valeur parce que ça se joue dans les conditions qu'on connaît. Puis parce que je pense que le vrai fan, le fan de hockey qui rêve à une Coupe Stanley depuis longtemps, ben je pense qu'il rêve à cette Coupe-là d'une certaine façon, avec des matchs excitants au Centre Bell, avec une foule qui transporte l'équipe, avec un défilé après. Puis ben cette Coupe Stanley-là, ben c'est ça, elle ne sera pas pareille parce qu'un défilé, il n'y en aura pas, peu importe quelle des 24 équipes là, va la gagner.
Mais moi, je pense qu'une fois que le tournoi est commencé, les gens vont embarquer. Je pense que la frénésie va embarquer quand même. En tout cas, moi, ça, c'est mon opinion. Alexandre, je te poserai la question. Tantôt, tu en as parlé un petit peu des négligés. Puis ça donne que, justement, quand on regarde les preneurs au livre, le Canadien est l'équipe la plus négligée des 16 qui participent à ce tournoi-là pour se rendre au tour suivant. Est-ce que c'est justifié selon toi?
Bien, c'est un peu normal. Il y a quand même les Pingouins ont terminé la saison avec un différentiel positif de 25 buts. Le Canadien est à moins 12. C'est quand même un écart de 37 buts entre les deux. C'est beaucoup. Je pense pas non plus que le Canadien va être capable de combler cet écart-là. Mais moi, je pense que ça va être beaucoup plus long et que ce que les gens pensent. Moi, j'ai mis les Pingouins en 5. J'ai failli mettre le Canadien en 5 même. J'ai regardé un petit peu ce qui se passe en Europe avec l'absence de partisans, des matchs en territoire un petit peu plus neutre. Il y a quand même beaucoup de facteurs qui vont avantager les clubs négligés. D'ailleurs, c'est le sujet de ma chronique de demain, mais par exemple, l'arbitrage, ça a l'air niaiseux, mais sans la pression des fans, les arbitres vont réagir différemment. Oui. On l'a vu en Europe, c'est un truc absolument fascinant, Jérémy. Depuis 15 ans, dans toutes les ligues en Europe, les clubs visiteurs ont été plus punis que les clubs locaux. Et cette année, depuis la reprise, en fait, c'est le contraire. C'est la première fois dans l'histoire récente des statistiques que les clubs visiteurs ont l'avantage, en fait, des arbitres quand ils jouent à l'étranger. Donc, si on transporte ça dans la Ligue nationale de hockey, ça veut dire que les clubs favoris qui jouent plus souvent à domicile vont être désavantagés. Il y a beaucoup de facteurs comme ça. Par exemple, le soutien de la foule dans une série 3-5 qui avantagerait normalement les favoris 60% du temps, ce ne sera pas là. Donc, le terrain propice à ce que les clubs négligés gagnent vraiment plus de séries qu'à l'habitude. Mais je trouve que l'écart est trop grand quand même de talent entre le Canadien et les Pingouins. Puis l'autre facteur, c'est que même s'il n'y a pas de partisans à domicile, les Pingouins vont quand même avoir le dernier changement dans 3 des 5 matchs si on sera à la limite. Le Canadien a quand même une immense faiblesse au centre en défensive de la part de Domi et Kotkaniemi. Je vois pas comment ils vont combler ce problème-là.
Justement, tu parles de Domi. Oui, Martin, je voulais rebondir sur Domi, te poser la question. Vas-y. Les gens ont critiqué un peu Claude Julien en voyant Domi sur le 4e trio. Pour moi, c'était logique, étant donné que Domi est arrivé un peu tardivement, puis peut-être qu'on pouvait pas s'attendre à autant de lui sur la patinoire dans ce premier match-là. Il a quand même disputé plus de 18 minutes. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Domi demeure sur le 4e trio? Est-ce que c'était justifié de l'avoir là pour ce match préparatoire?
Moi, je pense qu'il n'y avait pas de 4e trio dans le cas de Domi. Pour la bonne et simple raison que Jesperi Kotkaniemi, selon moi, ne tiendra pas le coup au centre dans cette série-là. C'est un joueur qui était dans la Ligue américaine. Il peut être le plus prometteur du monde. Puis je pense que dans 2-3 ans, Jesperi Kotkaniemi devrait être un bon joueur de hockey dans la Ligue nationale et pour le Canadien. Mais actuellement, là, je ne le vois pas derrière Domi. Puis j'ai pas l'impression que Claude Julien voyait Domi derrière Kotkaniemi. La seule chose, c'est qu'il a peut-être voulu entourer Kotkaniemi pour avoir en tout cas le meilleur de Kotkaniemi au camp, puis vouloir vraiment tester ce que le jeune homme avait dans le ventre, puis qu'est-ce qu'il pourrait lui donner. Mais quand on va faire le décompte du temps de glace, je suis convaincu que samedi soir à minuit, quand la feuille de temps va sortir, Domi va avoir eu plus de minutes que Jesperi Kotkaniemi. Pour moi, il n'y a même pas de doute là-dessus.
Ben écoute, c'était déjà le cas justement dans le match préparatoire. Je dois vous poser la question à vous trois. Je vais commencer avec Guillaume, mais j'aimerais avoir quand même chacun vos réactions là-dessus. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus chez le Canadien pour cette série-là? Et quelles sont, selon vous, les belles histoires qui pourraient émerger chez le tricolore dans ce tournoi?
Honnêtement, des belles histoires, je cherche beaucoup. Je suis pas sûr si j'en trouve. J'ai le goût de répondre Nick Suzuki comme belle histoire, mais en même temps, on connaît déjà quand même, dans son cas, c'est plus qu'un potentiel. Je veux dire, on a vu que c'est déjà un joueur qui est très, très capable d'aider. Mais c'est sûr qu'en étant confronté à possiblement à Malkin ou à Crosby assez souvent, ben il va avoir la chance de peut-être montrer encore plus là, qu'il est un joueur de la Ligue nationale établi et qui est déjà capable d'occuper un rôle très important. Donc je pense que s'il y a une belle histoire du Canadien qui peut ressortir, ça va être celle-là. Pour ce qui est des inquiétudes, honnêtement, j'ai trouvé que chez Weber, Ben Sherratt, ça a pris beaucoup de temps à se mettre en marche lors du match préparatoire de mardi. Ça s'est un peu replacé pendant le match, là, mais c'était assez atroce là, comme début de match. J'ai hâte de voir si c'est les joueurs qui prennent un certain temps avant de se mettre en marche. Ben, dans un 3-5, t'as pas vraiment le temps pour ça. Donc, je pense que je vois quand même un danger là.
Alexandre?
Ben moi, c'est vraiment le jeu défensif de Domi et Kotkaniemi qui m'inquiète. Je veux dire, contre Malkin puis contre Crosby, ça va aller très, très vite. Moi, je suis aussi de l'avis de Martin que Kotkaniemi va devenir un très bon joueur d'hockey, mais pour ça, il va quand même falloir qu'il améliore son instinct défensif. Alors, moi, je pense que ça va être très difficile pour eux. Puis l'avantage numérique aussi m'inquiète. Dans les belles histoires, je pense que le premier trio a quand même des chances de bien s'en sortir, tant offensivement que défensivement. Je serais même pas surpris en fait que le premier trio du Canadien performe mieux que le premier trio ou le deuxième trio des Pingouins, celui contre lequel il va être confronté.
Martin?
Moi, je pense que c'est drôle, hein? Alex Belzile aurait pu être une histoire formidable, mais tabarouette, il a fait deux présences puis il s'est blessé parce que, tu sais, ce genre de gars-là, là, il y a une opportunité comme ça qui passe dans sa vie, il le sait, puis il veut se faire couper un bras pour le Canadien. Mais comme l'histoire sera pas là, je vais passer à d'autres choses. Moi, je vais plutôt dire que ça pourrait être une belle histoire pour quatre gars. Tatar, Jonathan Drouin, Joel Armia, j'ajouterais Jeff Petrie. Excluant Jonathan Drouin, qui a un contrat qui est valide encore pour quelques saisons, les autres vont être en renégociation de contrat. Je n'ai pas placé Gallagher parce que je pense que Gallagher a répondu à toutes les questions qu'on pouvait poser ou soulever sur lui. Mais c'est pas le cas de Tatar, c'est pas le cas non plus de Philippe Danault en situation de série, c'est pas le cas de Armia et c'est pas le cas de Jeff Petrie. Peut-être un peu moins Petrie. Mais ces gars-là, s'ils ne... Je parle pas d'éliminer Pittsburgh, mais dans le contexte où le Canadien va devoir compétitionner contre Pittsburgh, si les gars que j'ai nommés ne sont pas des gars qui conduisent le traîneau en avant, c'est des gars qui vont avoir beaucoup de difficultés à s'asseoir avec Marc Bergevin et leur agent et demander un gros salaire et des années de contrat. Moi, je pense qu'il y a des réponses intéressantes qui vont venir de ces gars-là parce que le Canadien ne les signera pas tous. Il y a peut-être un de ces gars-là qu'on va devoir sacrifier. Puis c'est peut-être celui qui aura connu une moins bonne série contre Pittsburgh.
Ouais, et un gars comme Byron qui a connu un bon match mardi. Je sais que c'est juste un match préparatoire, mais si Byron peut retrouver les ailes qu'il avait il y a de ça un an et demi, ben peut-être qu'il y a moins de partisans qui seraient prêts à le sacrifier pour faire de la place sur la masse pour un autre joueur. En tout cas, on verra bien. Autre question pour vous trois, messieurs. Guillaume, je reviens avec toi. Si le Canadien est éliminé, ben on retombe un peu dans l'inconnu pour encore plusieurs mois. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que la prochaine saison va recommencer? Si oui, dans quelles circonstances? Est-ce que ça te fait peur? Et est-ce que, selon toi, la saison va reprendre au mois de décembre tel que prévu?
Ben, en fait, ce que je me demande, c'est quel est le plan de la Ligue nationale à cet égard-là? Parce que je regarde les choses aller, puis j'ai comme l'impression que la Ligue a intérêt à se préparer à encore jouer à huis clos.
Ouais.
Je vois les choses aller aux États-Unis, et est-ce qu'ils sont vraiment à trois mois et demi de pouvoir accueillir des spectateurs dans les gradins?
Ben, je penserais pas, là. Je penserais pas. Peut-être qu'on devra former une division toute canadienne pour s'assurer que les équipes d'ici ne soient pas obligées de descendre aux États-Unis. On verra bien. Alexandre, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense pas que ça va être un des plans. Je pense que aussi il faut continuer à jouer en bulle. Là, pour l'instant, c'est le seul format qui fonctionne. On va peut-être voir un nouveau système émerger, par exemple, des bulles qui dureraient 6 semaines, dans lesquelles il y aurait peut-être 5 ou 6 équipes qui joueraient entre elles. Après ça, des pauses de 3 semaines. Ça reprendrait 6 semaines. Mais on ne connaît pas encore le plan de la Ligue nationale. Ce qui m'inquiète plus, c'est le développement des joueurs. Ça, quand même, c'est pas évident que, tu sais, au-delà des joueurs de la Ligue nationale, les 25 autres joueurs de l'organisation, on va les envoyer où? Pensons même aux joueurs qui sont repêchés, qui jouent, par exemple, dans la NCAA ou le junior majeur. C'est pas dit que ces ligues-là vont prendre non plus. Est-ce que, par exemple, le Canadien va envoyer de ses joueurs de la Ligue américaine en Europe, où là, il y a vraiment plus de chances qu'il y ait des saisons? Ça va être intéressant à suivre. C'est là aussi qu'on va voir les contacts des équipes avec les clubs étrangers, mais il va falloir qu'ils trouvent du temps de glace. Un gars comme Ryan Poehling, par exemple, peut pas être 9 mois sans jouer, c'est un choix de première ronde. Il va falloir qu'il lui trouve un spot quelque part, là.
Martin, qu'est-ce que tu en penses de cette situation-là?
Moi, je pense que la Ligue nationale ne peut pas se passer de spectateurs pendant très longtemps.
Ouais.
Ça, c'est pour moi, c'est une évidence. Je dirais même que dans les hautes sphères de la Ligue, là, ils prient à tous les jours pour un vaccin qui pourrait peut-être à la fin de l'année, à la fin de cette année-ci, là, 2020, qui aura été probablement l'année la plus dure qu'on aura eu à vivre comme collectivité depuis les 20, les 30, les 40 dernières années, là. Mais je peux vous dire qu'ils prient à tous les jours pour un vaccin parce que peu importe le scénario que vous pourriez imaginer avec 100 spectateurs, une bulle, deux bulles, quatre bulles, le modèle économique ne fonctionnera pas pour la Ligue nationale de hockey. Ça ne fonctionnera pas. Et on ne pourra pas purger des dollars des télédiffuseurs. On les a arrachés des piastres avec un 3-5 qui va commencer demain soir, puis les télédiffuseurs ont fait le chèque, mais je peux vous dire qu'ils ont fait le chèque avec un goût très amer dans le fond de la gorge. Alors, la Ligue sait que ça, là, c'est fini. Alors, vraiment, là, la Ligue sans spectateurs, la prochaine saison sans spectateurs, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer que ça peut marcher.
Ouais, ben dans la MLS, en tout cas, on a dit que dans certains marchés où la santé publique le permettrait, on recommencerait à ouvrir les portes pour un certain nombre de spectateurs. Je présume que la Ligue nationale va faire pareil. Peut-être un petit mot, les gars, sur la façon que la Ligue nationale a décidé d'utiliser ce fameux mouvement Black Movement, Black Lives Matter. Au lieu de mettre le genou à terre, les joueurs, se mettre en ligne d'une équipe à l'autre. Là, ils sont ensemble, ils se côtoient. Juste un petit mot rapide là, pour la fin de l'émission, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, si je peux me permettre, là, j'ai beaucoup aimé l'initiative de Kadri, de Domba, dans le match de préparation là, entre l'Avalanche et le Wild du Minnesota. Ça, j'ai bien aimé ça. Quatre gars qui viennent de nationalités différentes, qui représentent une minorité dans la Ligue nationale au niveau de leur couleur de peau. Que ces quatre gars-là se soient tenus l'un et l'autre, là. Moi, je pense que ça va faire des petits, cette affaire-là. Tu sais, le genou au sol, là, c'est un décorum qui appartient beaucoup plus au football, au baseball, au soccer, avec des patins d'un pied. Ça a l'air bête ce que je vais dire là, mais on voit pas ça souvent avec des patins d'un pied. Mais moi, je pense que le geste que les gars de l'Avalanche et du Wild ont posé, il va faire des petits, d'après moi.
Guillaume, là-dessus?
Ouais, ben moi ça me fait rire un peu parce qu'il y a une histoire qui est sortie de TSN où finalement le groupe là, le Hockey Diversity Alliance là, donc c'est le groupe qui avec lequel notamment Evander Kane fait partie trouve que le dialogue avec la Ligue nationale est absent. Donc bref, oui là c'est cute de voir les joueurs d'équipes adverses un à côté de l'autre debout sur la ligne bleue, mais il semble quand même manquer quelque chose. Et l'impression que ça donne, si on voit que ce groupe-là de joueurs actuels et anciens, dont je disais Evander Kane, il y a également Joel Ward, entre autres, dans ce groupe-là, Anthony Tutelaire, si ce groupe-là ne se sent pas écouté par la Ligue nationale, ben je trouve qu'on passe peut-être un peu à côté de l'objectif, parce que cette alliance-là, finalement, de joueurs, devrait être quand même là, au cœur du processus là, que la LNH fait. Là.
On a vu en plus là, le tweet de Eric Trump, je crois, le fils de Donald Trump, qui a remercié la Ligue nationale en partageant le fait de voir tous les joueurs debout. Pour l'hymne nationale, le dernier mot pour toi, Alexandre.
Ben moi, je suis d'accord avec Guillaume, mais même au-delà de ça, je trouve que le mouvement de soutien envers les Noirs est quand même dilué dans un paquet d'autres messages lancés par la Ligue nationale, notamment le soutien aux gens qui travaillent pour la COVID, d'autres causes de cancer. Puis, tu sais, à un moment donné, à trop vouloir diluer puis supporter trop de causes, c'est comme si la Ligue nationale ne prenait pas nécessairement parti dans... Ou en tout cas, pas avec conviction dans ce cas-ci. Je suis pas convaincu encore, mais j'ai hâte de voir en fin de semaine. Il semble que la Ligue nationale va poser d'autres gestes en faveur du mouvement Black Lives Matter en fin de semaine. J'attends de voir avant de me prononcer davantage.
Ben alors, messieurs, c'est tout pour le premier épisode du Retour au travail pour le podcast Sortie de zone. Alexandre Pratt, Guillaume Lefrançois, Martin Maguire, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve, je crois que c'est mardi, pour le prochain podcast. Mon nom, c'est Jérémy Filosa. Merci d'avoir écouté. Partagez avec vos amis, bien sûr. Merci et à la prochaine.